tuk, a tuk. Et deux mesures piano, comme écho. Encore une fois.
Émission XXL ce soir en compagnie de Richard Russell, DJ, producteur anglais, patron du label XL Recordings, fondé en 1989 à Londres, le label d'Adele, de Prodigy, MIA, entre autres. C'est peut-être le plus influent des labels indépendants de ces 20 dernières années. Il a travaillé avec des jeunes inconnus, aussi bien qu'avec des chanteurs à la voix puissante comme Bobby Womack. Richard Russell, fier de son ethos, il expliquera ce que c'est, il évoquera même Jacques Derrida avec nous ce soir. Richard Russell, qui nous a reçus à son hôtel à Paris à l'occasion de la sortie de Everything is Recorded, son œuvre personnelle, un disque de producteur et de DJ qui confronte les époques, les influences, réunit à la fois les sœurs Ibeyi et le saxophoniste Kamasi Washington et même le souvenir de Grace Jones dans ce Mountains of God. Continuons musique, clic.
Burn it down. Damn, man, it turns into a reason to laugh. Think about the cats leading the pack. At least half got clapped, scrapped, meeting a match. Slow down, no numbers, don't believe in the facts that I spew when I'm reading these raps. All I know is what I seen, seen bridges get burned. And then I seen lessons get learned. After that, on a smaller level, out in Parkchester, and the six just skip. Thinking last time I ditched my chick. Man, it really ain't big as the bridge, but goddamn me, the cycle is sick. Goddamn me, the cycle is sick. Goddamn me, the cycle is sick.
We'll spread the love that we all deserve. Chasing this global pain that disturbs. We'll have faith.
Je vais vous traduire le titre de votre album, Richard Russell. Everything is recorded, ça donne en français, tout est enregistré. Et Richard Russell, vous êtes DJ, producteur, vous êtes aussi patron du label XL Recordings, un label qui a été fondé en 1989 à Londres et dont vous avez pris la tête en 1994. J'aimerais revenir sur ce titre, Everything is recorded. Tout est enregistré.
Moi, cela me convient tout à fait que chacun le comprenne à sa façon. C'est un titre qui permet de multiples interprétations. Je pense qu'aucune de ces interprétations n'est fausse. Simplement, Everything is Recorded raconte dans le détail une série de moments.
Est-ce que cela peut vouloir dire aussi, ce qui serait très ironique de la part d'un producteur comme vous, qui est aussi un DJ, que tout a déjà été fait?
C'est l'histoire de toute une vie. C'est ça l'idée. Ça raconte que chaque moment est important, que chaque moment compte. Et que ce n'est pas les gros titres de la vie d'un homme qui importent. Les petits détails sont tout aussi précieux.
Everything is Recorded, c'est un disque qui marche un petit peu comme un voyage dans le temps, enfin assez vite, puisque ça commence avec la voix d'un prédicateur, et puis il y a des productions très contemporaines, avec des effets qui vont venir se distordre, et puis des collusions, des sortes de rencontres, comme par exemple entre la voix de Sampha et celle de Curtis Mayfield. Comment est-ce que, par exemple, vous organisez, et pourquoi, la rencontre entre ces deux voix?
L'idée est venue quand j'ai entendu le premier enregistrement que Sampha a réalisé de No One Knows Me Like the Piano. C'est une de ses chansons. Et en écoutant, les paroles de Curtis Mayfield me sont revenues. These words I've tried to recite, they are close but not quite. Ces mots que j'essaie de déclamer ne sont pas tout à fait justes. Je me suis dit que c'était pour ça que j'écoutais Sampha. Ces mots dans cette chanson, ils sont très beaux, ils sont très imparfaits, c'est presque maladroit, mais c'est plus fort que si ce n'était pas maladroit. Alors je suis passé au studio et j'ai placé une rythmique très simple, avec une batterie qui est restée d'ailleurs celle de l'enregistrement final. Et dans donc la batterie, le sample de Curtis Mayfield, et j'ai fait écouter ça à Sampha. Il a commencé à chanter, mais tout de suite, par-dessus, tout de suite. Et on a enregistré sa voix. Et c'est l'enregistrement de ce jour-là qui est devenu la chanson « Close but not quite ». C'était inespéré, parce que Sampha n'avait jamais entendu Curtis Mayfield. Mais ils ont, je crois, certains dons en commun. Fake lets you fall into arms without a word. And only the size of your breath are heard. I'm not one to go to church, but you made me believe in something more than hurt. I feel like I don't have the words. I feel like I don't have the words, because I can't speak. Am I so naive? I feel like I don't have the words, because I can't speak. Of these words I've tried to recite, they are close. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite. I'm so misunderstood, I'm so misunderstood. Said enough. I guess your sigh said enough. Oh, these words, no, they can't express pain. It's like my life had not. There's no words that I've learned. Oh, and these are just words, and they can't express pain. Donc ce qu'on entend ici, Richard Russell, avec Everything Is Recorded, c'est vraiment un album du producteur. Mais il y a beaucoup d'artistes qui, pendant des années, ont cherché à échapper au producteur. Vous comprenez ça, Richard Russell? Oui, mais moi, ça m'intéresse beaucoup, cette idée du producteur-artiste-créateur. Mes musiciens préférés sont souvent des producteurs. Ça remonte à... Mais c'est intéressant ce que vous dites. Souvent, mes producteurs préférés, ils pensent comme Joni Mitchell, qui ne voulait pas de producteur, parce que ce sont de vrais artistes eux-mêmes. Pour moi, le plus grand producteur de tous les temps, et qui n'est pas du tout reconnu comme producteur, c'est James Brown. Il produisait ses propres disques et leurs sons. C'est une des plus belles choses qui soit. Il a révolutionné la musique. Il n'y a pas de hip-hop sans James Brown, producteur. Alors bien sûr, il devait voir ça comme Joni Mitchell. J'ai pas besoin de producteur, je suis productrice. Et lui, c'était vraiment un producteur. Même chose pour Sly Stone, qui a été le premier à utiliser les boîtes à rythme comme on les utilise aujourd'hui.
D'ailleurs, vous avez utilisé la même machine que Sly Stone.
Oui, il appelait ça la Funk Box. Et puis, Lee Scratch Perry a eu beaucoup d'influence sur moi. C'était quelqu'un qui utilisait le studio comme un instrument. Et selon moi, c'est révolutionnaire. À la fin des années 60, on commençait à comprendre les possibilités du studio. Dans le rock progressif, on utilisait des studios comme ça. Le reggae dub en Jamaïque, il y a eu beaucoup d'expérimentations en studio. Les ingénieurs faisaient du son et ils commençaient à tenter plein de choses. C'est devenu plus important pendant les années 70. Ces gens-là m'ont beaucoup inspiré. Le producteur de hip-hop, Marley Marl, est alors vraiment devenu, avec ses samples de James Brown, aussi important que James Brown, en remettant ce son au goût du jour, en proposant sa version de ce son-là. C'est un grand visionnaire, une grande inspiration. Il fait vraiment partie de mon ADN musical. Et si un artiste trouve un producteur qui ne s'interpose pas, tant mieux. Pour Joni Mitchell, je me demande si elle n'avait pas dû affronter le regard misogyne de la profession. Ouais, c'est une gonzesse, elle sait rien faire. Et quand vous rencontrez ça, vous avez envie de tout envoyer balader. Vous le faites vous-même, le job, et c'est ça qu'il faut faire.
Yeah, the doctor don't know, but New York was killing me. Bunch of doctors come around, they don't know that New York is killing me. Yeah, well, I need to go home and take it slow down in Jackson, Tennessee. Let me tell you, city living ain't all home. It is cracked up to be. Fast city living ain't all home. It is cracked up to be. Yeah, see, I need to go home and slow down in Jackson, Tennessee.
Un des points forts de votre carrière de producteur, Richard Russell, c'est la collaboration avec l'écrivain et chanteur américain Gil Scott-Heron. C'était pour l'album I'm New in Here en 2010. Et I'm New in Here, je suis nouveau ici, c'était un petit peu ironique puisque Gil Scott-Heron avait 61 ans à l'époque et que sa carrière était plutôt derrière lui. Vous êtes même allé le chercher, vous êtes investi seul et entièrement dans cette aventure avec Gil Scott-Heron. Vous êtes allé le rencontrer alors qu'il combattait plusieurs fléaux, celui de la drogue, et qu'il était en prison, puisque je crois que vous êtes même allé lui rendre visite à l'époque, il était en prison. Comment est-ce que vous avez conçu et travailler ensemble, puisque je crois que c'était vos débuts de producteurs.
L'idée, en fait, m'est venue. J'ai l'impression que c'est une conjuration des étoiles. J'avais envie d'entendre un nouvel album de lui, et ça n'arriverait pas si je ne faisais pas quelque chose. Il avait dit non à de nombreuses propositions depuis des années, mais il a été d'accord. Il a bien voulu.
Qu'est-ce que vous lui avez dit ?
Je lui ai écrit une lettre. C'était une lettre de remerciement pour toute l'inspiration que sa musique m'avait transmise. C'était l'objet de ma lettre. Et puis je suggérais qu'on discute d'un disque qu'on pourrait faire ensemble. Et s'il ne voulait pas, je respecterais ça complètement. Mais s'il le voulait, j'étais prêt à venir le rencontrer pour en parler. Et il m'a écrit sa réponse. D'accord, parlons-en. Gil avait le sentiment d'avoir des choses importantes à dire aux gens. Gil disait des choses très importantes dans ses disques. Il passait des messages très forts, qui resteront, je crois, pour toujours. On retrouve bien son inspiration aujourd'hui. Kendrick Lamar est sans doute le plus grand artiste du moment, et il y a beaucoup de points communs. Il y a un lien très fort entre Gil Scott-Heron et Kendrick. Il s'agissait de tenter de créer quelque chose qui soit à la hauteur de son catalogue. Clairement, je ne pensais pas que ce serait son dernier disque. Et quand on voit tous les disques qu'il a faits, ceux des années 70, au début des années 80, et puis Spirits dans les années 90, I'm New Here en 2010, c'est vraiment quelque chose. C'est plein d'enseignements. Pour n'importe quel musicien, c'est une odyssée, c'est incroyable. The song is called The Battle. And the rhythm is celebrate time. Brian Jackson on flute for you. We'll give us a little bit of help here. Help us out a little bit, bottom. What it is? You see that black boy over there running scared? His old man in a bottle. Said if he done quit hitting 95, take full time. Now he's hanging in a bottle. You see that black boy over there running scared? His old man got a problem. Like to drink too much. He done fond of damn near everything. His old woman would drink from bottle. And don't you think it's a crime the way time after time after time people in a bottle. Their people shoved up in the bottle. Said listen to me. See that sister sure was fine. Before she started drinking wine. Tried to help her out, she cussed him out, hit him in the head with a bottle. They turned to me and asked me, Gil, now don't you think it's a crime? The way time after time, people in a bottle. Their people showed up in the bottle. I got a little dirt on the doctor, I'm gonna start some trouble. Seen that gent in the ring on suit, now he done damn near blown his cool little bottle. Well, he was a doctor helping young girls along. If they wasn't too far gone, they had problems. I mean, complications, but the peddlers of the dollar eagle said, what you doing, man, ain't legal. Now he's in a bottle. Yes, and now we watch him best days. He's trying to chase business away from the bottle. But he turned to me and he said, give me a hand out. Don't you think it's a crime? We'll be right back.
dans son livre, qui est un livre posthume, The Last Holiday, qui était traduit en France sous le titre La Dernière Fête, qui est paru aux éditions de l'Olivier, Gil Scott-Heron parle du climat politique dans les années 70-80, du rapport avec ses chansons et avec ce qui se passe autour de lui. Il évoque surtout sa tournée avec Stevie Wonder en 1981 et puis sa rencontre avec Bob Marley qui le marque beaucoup. Parmi les artistes que vous avez croisés, lesquels vous ont paru les plus préoccupés par ce rapport entre leur chanson et la possibilité de l'impact d'une chanson sur la vie des gens?
Je suis à la recherche de cette sincérité chez les gens, dans ce qu'ils expriment. Et quand les gens s'expriment sincèrement, c'est ça qui crée un lien avec le public. C'est ça qu'ils touchent. C'est quelque chose qui est hors du commun. Ce sont des artistes qui arrivent à transformer leur douleur et en faire quelque chose de fécond. C'est ça la créativité. On transforme sa douleur pour la rendre positive. Quelqu'un comme Adele, elle fait de la musique qui touche les gens d'une façon très concrète, vous voyez. Des gens qui vont bosser, qui prennent le RER, le métro à 4h du matin pour aller nettoyer des bureaux. Ils écoutent Adele et elle les touche vraiment.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called.
Russell, vous mentionnez le nom d'Adèle, une des artistes phares du label XL Recordings, de votre label. Justement, je voudrais vous faire entendre la question d'Adèle, la question d'Adèle Van Rett de France Culture.
Richard Russell, Derrida pensait que tout support cinématographique était un support fantomatique, parce qu'il donnait à voir un corps qui était absent. Pensez-vous qu'enregistrer la voix, c'est créer des fantômes?
Moi, je conçois le corps humain comme une enveloppe. Ce n'est que ça. Cette enveloppe nous préoccupe tous beaucoup, mais elle est temporaire. Je crois cependant que quelque chose reste, qui est de l'ordre de la substance. Je crois que la frontière entre les vivants et les morts, elle est perméable, plus perméable qu'on ne le pense. Je crois que ça se rapproche de ce que dit Jacques Derrida, non? C'est pas exactement ce qu'il dit, mais quand vous capturez une image ou une voix, nous allons tous mourir. Notre apparence physique n'est que temporaire. Mais si vous produisez une œuvre d'une véritable qualité, elle vivra au-delà de vous. Ce qui m'intéresse beaucoup, ce sont les fantômes. J'aime faire le DJ, j'aime les clubs. Mais j'aime aussi un club vide au petit matin. Et j'aime les bâtiments qui sont d'anciens clubs. Ça m'intéresse. Je crois qu'on peut toujours y ressentir ce qui s'y est passé. C'est dans les murs. La musique dans les murs. Les esprits dans les murs. Je trouve ça passionnant. On peut entendre ce son-là. Et celui qui rend le mieux ce son dans sa musique, c'est Burial. Le son de Burial, c'est un club le lendemain.
Hey, child.
I will always be there for you.
Richard Russell, c'est une chanteuse dont le succès est immense. Vous, quand vous voyez Adele Atkins pour la première fois, je crois que c'est en 2006, c'est encore une grande adolescente, elle chante dans un petit club de Cherry Jam. Qu'est-ce qui vous amène à croire en cette chanteuse au départ ? Il y avait déjà d'autres chanteuses de soul en Angleterre. Je pense évidemment à Amy Winehouse, qui avait connu un gros succès, mais aussi Alice Russell.
Vous dites qu'Adele était jeune et sans expérience. Mais avoir de l'expérience, ça a des avantages et des inconvénients. Manquer d'expérience, ça a aussi des avantages et des inconvénients. Je ne crois ni l'un ni l'autre comme étant forcément un avantage. Ce qui compte, c'est qu'on en fait. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Je l'ai entendu la première fois au moment où j'écrivais ma première lettre à Gil. Elle devait avoir 16 ans et lui 60. Mais ça change rien. En fait, je trouve, depuis peu, que ma chanson préférée d'elle, c'est une des plus récentes, en fait. C'est « When We Were Young », quand nous étions jeunes. C'est une excellente chanson. Nous avons tous profondément de la nostalgie en nous. Même quand on est jeune, même quand on a 15 ans, on peut être très nostalgique de quand on avait 7 ou 8 ans. Parce qu'on a perdu son innocence. Et je trouve que Adele rend ça très bien, c'est très beau.
France Culture,
Continent Musique,
Mathieu Conquet.
Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like
like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. It was just like a movie. It was just like a song.
Il y a un autre artiste avec lequel vous allez travailler après Gil Scott Heron, en tant que producteur, mais toujours pour XL Recordings, Richard Russell, c'est Bobby Womack, qui lui avait 68 ans à l'époque. Il est accompagné de Damon Albarn, et vous allez ensemble coproduire The Bravest Man in the Universe, l'homme le plus courageux de l'univers. Et cette fois-ci, les problèmes de santé vont disparaître, et de façon inespérée, puisqu'il va même se lancer dans une tournée après avoir fait le concert.
Tout ce qui s'est passé avec Bobby, c'était génial. Il m'a dit, pendant l'enregistrement du disque, qu'il semblait inquiet. Et je crois qu'il ne voyait pas très bien ce que ce disque serait, ce qu'on allait faire. Et moi non plus, je savais rien. Et je lui ai dit, on va faire un disque de Bobby Womack. Et lui, c'est quoi? Et j'en sais rien, on verra, vas-y, fonce. Et lui, j'ai envie de chanter des spirituals. Et super, génial, et tu trouves, tout le monde me dit que c'est pas commercial. Mais on s'en fout, t'inquiète pas. Dans l'industrie du disque américaine, surtout à son époque, il y avait pas mal de gens qui donnaient leur avis. Même auprès de Stevie Wonder, il y avait des gens qui voulaient se mêler de tout. Il y avait beaucoup de ça, vraiment. Et Bobby en avait souffert. Donc je pense que ça l'a libéré, d'être là pour faire un disque en s'amusant. Dans le studio, il me dit, on enregistre en une seule prise, live, n'est-ce pas? Et je me suis dit, oh là là, on va jamais y arriver. Mais j'ai répondu, bien sûr. Et ça a marché. Et voilà. Il était génial. C'est vraiment un des plus beaux souvenirs de ma vie. On a fait un concert. On était ici à Paris pour faire des télés. Et dans un café, un jour, je lui dis, on pourrait jouer devant un public quand même une fois. Il n'y a jamais de public dans ces émissions de télé, ou alors trois personnes. J'ai envie de jouer dans un club. Et il me fait, ouais, on le fait. Notre tourneur nous trouve à Londres deux jours après, un club, le Notting Hill Arts Club. Dingue. Un tout petit concert, mais dingue. Les gens chialaient. Incroyable. Damon Albarn aussi. Damon est un fantastique pianiste, hein, tellement expressif. Et pour lui, de jouer la musique de Bobby, c'était trop beau.
The bravest man in the universe is the one who has forgiven first.
The bravest man in the universe.
The bravest man
Il se passe quelque chose après cette tournée, Richard Russell. C'est vous qui allez avoir des problèmes de santé, puisque vous allez être atteint par une maladie rare, le syndrome de Guillain-Barré, qui touche le système nerveux périphérique. Maintenant que vous avez récupéré, qu'est-ce qu'on apprend de ce genre d'expérience et quel impact cela a pu avoir sur votre rapport à la musique ?
Bobby est venu me rendre visite à l'hôpital. Et j'étais estomaqué. On était tous les deux là à se dire « Oh merde, on est à l'hosto, comment ça se fait ?» Je crois que ça a fait partie pour moi d'une réflexion qui était déjà en cours. J'avais essayé d'apprendre de la religion, de la philosophie. Et pour moi, les deux sont liés à la musique. Et ça m'a aidé, je crois. J'avais perdu toute capacité à bouger. J'étais complètement paralysé. Un jour, j'ai reçu un cadeau. Le cadeau, c'était un tout petit synthétiseur qu'on appelle un piano de poche, conçu par Kritter et Guitari, une fabrique d'instruments à New York. C'était un cadeau de Jeff Barrow de Portishead. Et je me rappelle, je le regardais, ce piano de poche, j'étais incapable de l'utiliser à ce moment-là. Après 2-3 semaines, j'ai demandé qu'on me le sorte de sa boîte et qu'on me le donne. Et on me l'a posé près de moi. Ces boutons sont en bois. C'est très facile à activer, à actionner. Ce sont de gros boutons ronds. Et j'ai commencé à en jouer, d'essayer d'en sortir des sons. Et quand la kiné, elle est entrée, quand elle m'a demandé « C'est quoi ça ?» J'ai répondu « C'est un clavier ». Elle l'a pris pour en jouer un peu et m'a dit « Mais c'est parfait comme outil pour remettre vos doigts en mouvement. J'allais vous apporter autre chose pour ça, mais ça c'est bien mieux pour restaurer les impulsions entre votre cerveau et vos membres. » Alors j'ai commencé à en jouer. C'est un instrument épatant. Si vous écoutez Close But Not Quite, dans l'intro, c'est l'instrument dont je joue. Il y a clairement, dans ma musique, souvent des expériences très personnelles, des connexions comme celle-ci, des liens avec des souvenirs personnels.
Richard Russell, sont venus à XL Recordings, sont venus à vous des artistes qui avaient déjà d'autres partenaires, d'autres labels, et qui avaient déjà une carrière établie. Je pense à des artistes comme Radiohead ou Frank Ocean. Qu'est-ce que vous leur apportez et est-ce qu'ils ont encore besoin de vous ?
Je ne sais pas si les artistes ont vraiment besoin d'une maison de disques. Enfin, il faut quelque chose. Il faut une équipe. Si vous voulez faire de la musique, ça ne se fait pas tout seul. On peut le faire tout seul, mais c'est très chiant. Et il faut un autre cerveau que celui qui va créer de la musique géniale. Il faut des trucs, il faut un manager. Pour la plupart des artistes, ceux qui ont atteint un certain succès, l'équipe qu'ils ont derrière, ça fait pas mal de monde. Il y a un manager, il y a un agent pour les concerts, un agent en Europe, un agent en Amérique, un avocat, un attaché de presse, un comptable. Et là, on n'a même pas abordé le prof de yoga, le dealer, et tout ce qui peut vous faire plaisir, un psy.
Je crois que
pour un artiste, la question d'une maison de disques se pose ainsi. Est-ce que j'ai envie d'avoir une équipe organisée comme ça ? Est-ce que j'en ai besoin ? Est-ce que le deal est honnête ? Comment ça marche ? Qu'est-ce qu'il touche ? Qu'est-ce que je touche ? Est-ce que c'est juste ? Parce que poser la question « Un musicien a-t-il besoin d'une maison de disques ?» c'est comme, je ne trouve pas la bonne métaphore, mais ça dépend. Voilà, ça dépend des fois. Ça dépend de la relation qui va se créer et des attentes de chacun.
Vous avez commencé, Richard Russell, parce que vous vous êtes inscrit au départ comme DJ, et c'était plutôt dans la scène rave dans les années 90.
Well, hip-hop originally.
Dans le hip-hop, au début.
Being a hip-hop DJ.
J'étais DJ de hip-hop
radio,
à la radio
clubs,
et dans les clubs.
And playing hip-hop.
Je jouais du hip-hop,
hip-hop
et j'essayais d'en faire des disques. No really was mais ça n'intéressait personne de faire des disques de rap britannique à l'époque, personne.
So the rave thing was taking off.
Le phénomène des rave parties était en train de décoller et pour moi, étant DJ, c'était une énergie et un enthousiasme énorme. C'était immédiat, naturel, c'était évident. Pas besoin de réfléchir. C'était excitant et ça se passait là, maintenant, comme une vague.
Quel est le rap avec lequel vous avez grandi ?
Rakim.
Rakim, c'était le plus important pour moi. Et même aujourd'hui, à cause de sa profondeur spirituelle, qui est immense. Et même à l'époque, ça me portait à un niveau... On savait qu'il faisait un truc complètement différent des autres. On sentait bien que ça dépassait les mots. Ça a dû être la même chose pour ceux qui ont entendu Miles Davis pour la première fois à l'époque. C'est « Waouh, d'où ça vient ça, putain ?» On n'a jamais entendu ça. Rakim, ça, il m'a énormément inspiré.
It's been a long time, I shouldn't have left you without a strong rhyme to step to. Think of how many weeks shows you slept through. Time's up, I'm sorry I kept you. Thinking of this, you keep repeating your miss. The rhyme from the microphone soloist. So you sit by the radio and on the dial soon. As you hear it, pump up the volume.
Russell, un moment qui a été important dans l'histoire du label XL Recordings, c'est en 1997, la sortie du troisième album de Prodigy, The Fat of the Land, qui a été le premier album de musique électronique à atteindre la place de numéro 1 aux charts US. Un tel succès, ça pourrait tuer un petit label, un label encore indépendant. Qu'est-ce que vous décidez de faire à ce moment-là pour grossir, pour grandir, sans vous perdre ?
C'était vraiment quelque chose dont on avait envie. Liam et moi pensions vraiment qu'il y avait un potentiel. On était tous les deux assez ambitieux. La musique que nous produisions n'était vraiment pas grand public, mais elle avait une force immense. C'était notre pari. On se disait, avec ça en main, on va réussir. C'était important pour nous. Et puis j'aimais l'idée de l'aider à atteindre ce but. Et puis vous voyez, je crois qu'après un truc comme ça, il faut se ressaisir. Il a fallu se ressaisir après la petite gueule de bois qui a dû durer jusqu'à l'an 2000. Et puis il y a eu une nouvelle étape. On a repris le label en 2000-2002. On s'est impliqué avec Dizzy Rascal, avec MIA, et il y avait une énergie nouvelle. Il nous a fallu un petit peu de temps pour trouver cette nouvelle énergie après tout ça.
Vous mentionnez Richard Russell, MIA, c'est une artiste très importante aussi dans votre carrière. On la connaît aussi pour son franc-parler, son côté très direct, qui se retrouve aussi dans sa musique. Il y a, comme dans son univers visuel, il y a parfois des choses assez brutes. Qu'est-ce que vous avez appris avec elle de vous-même ?
J'ai appris énormément de choses avec MIA. C'est quelqu'un de... C'est une provocatrice dans son travail. Elle cherche vraiment la confrontation. Au départ, elle ne se positionnait pas comme une musicienne. Elle disait, je veux faire des disques, point barre. Elle avait déjà toute l'esthétique, tous les visuels, tout était prêt. Je crois que c'était l'artiste Internet total avant l'arrivée d'Internet. Elle avait tout compris. C'était une visionnaire. Et c'est aussi le premier projet dans lequel Diplo s'est impliqué. Et il a beaucoup de talent. C'était donc aussi lui la révélation à ce moment-là. Ils formaient tous les deux un duo très fort. Elle avait quelque chose de très stimulant. J'ai pu travailler avec toutes ces musiciennes, avec Peaches, Layla, M.I.A., Adele, IBI, et ce sont de fortes personnalités. J'ai essayé de les aider à exprimer quelque chose. Ce type d'expérience peut aider les gens à s'exprimer. Il s'agit de donner les outils. C'est politique, en fait, pour des artistes comme elle. M.I.A. était extrêmement comme une futurologue dans ce qu'elle faisait. Et elle a été copiée depuis mille fois. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name.
Un portrait qui est paru vous récemment dans le New Yorker, où vous disiez, un long portrait qui est vraiment passionnant à lire, où vous vous disiez fier du fait que votre label XL avait un ethos différent de celui des trois géants. Les trois géants sont Universal, Sony et Warner. Qu'est-ce qui fait selon vous vos différences majeures?
I think as an artist, you,
en tant qu'artiste, vous faites des choix.
You choose what is right for
et des
you,
choix qui, you know, conviennent à la personne que vous êtes. Et ces majors produisent certes beaucoup de musique. Mais ce qui est juste pour l'artiste, comme je le disais, c'est de savoir ce qu'il veut et ce dont il a besoin de la part d'une maison de disques. Ces majors, elles sont en concurrence les unes avec les autres pour leur part du marché. C'est une compétition. Et elles ont toutes besoin d'arriver en premier.
So I think,
vous n'êtes pas en compétition. You are not in competition.
Non,
et d'aucune manière. Et je pense qu'aucune maison de disque indépendante ne l'est, parce qu'on ne réfléchit pas en termes de part de marché. On n'a aucune part de marché. On est trop petit pour ça. On n'essaie même pas d'en avoir une.
Vous n'êtes plus si petit que ça aujourd'hui.
À un moment donné, oui, si un de vos artistes a un gros succès, s'il vend beaucoup, à ce moment-là, oui. Mais ça ne fait pas de vous une grosse boîte. Et puis il y a un peu Il y a peu d'artistes à qui ça arrive. Ça fait des moments particuliers, cela dit. Mais les majeurs cherchent à atteindre une progression constante. Et ce n'est pas comme ça qu'un indépendant fonctionne. Et puis j'ai toujours eu le sentiment qu'avec les autres labels indépendants, on entretenait des liens fraternels, qu'il y avait une communauté d'esprit. Naturellement, j'ai toujours été heureux qu'XL obtienne des succès. Mais moi, je veux que tous les indépendants réussissent. Si tout le monde y arrive, c'est génial. C'est pas la même chose chez les majors. Pour eux, c'est comme une compétition sportive. Il faut gagner et il faut que l'autre perde. Parce que ça arrangera vos affaires. Pour un indépendant, ça ne sert à rien qu'un autre indé se casse la figure. C'est dans son intérêt que ça marche bien pour tout le monde. C'est dans l'intérêt commun. Et ça, sans doute, ça contamine la nature du métier, cet esprit-là.
Richard Russell, avec quelle musique est-ce que vous aimeriez qu'on se quitte ?
Il existe une chanson qui s'appelle « I Just Don't Want to Be Lonely » par un groupe qui s'appelle « The Main Ingredient ». C'est un groupe soul des années 70. Un des membres en était Cuba Gooding Jr., le père de Cuba Gooding Jr., le comédien. Et cette chanson a influencé tout ce que j'ai enregistré. La façon dont ils expriment la solitude. Et cette chanson, on ne l'a ni samplée ni reprise, mais c'est une référence pour moi. Elle attrape quelque chose, un sentiment. C'est vraiment une chanson soul.
Hey, say wait a minute. Where are you going with that suitcase? Hey, wait a minute. Listen. All right, well, you don't have to answer. Just listen. I don't mind when you say that you're going away. I just don't want to be lonely. And I don't care if we share only moments a day. I just don't want to be lonely. I'd rather be loved and needed.
To Be Lonely du groupe Main Ingredient, c'est le choix de Richard Russell, DJ, producteur et patron du label qui nous a accordé cet entretien à l'occasion de la sortie de Everything is Recorded, paru sous son label XL Recordings. Un grand merci à Harold Manning qui a assuré la traduction de ses propos. On se quitte pour cette semaine avec la voix de Tom Rapp, le chanteur de Pearls Before Swine, disparu le 12 février dernier à l'âge de 71 ans. Seems so long ago, Nancy.
It seems so long ago. Nancy was alone, looking at the late, late show through a semi-precious stone. Well, in the house of honesty, her father was on trial, and in the house of mystery, there was no one at all. There was no one at all. It seemed so long ago. None of us were strong. Nancy wore green stockings. She slept with everyone. She never said she'd wait for us, although she was alone. I think she fell in love for us in 1961. In 1961. It seems so long ago. Nancy was alone.
Tom Rapp qui reprenait Seems So Long, Nancy de Leonard Cohen. C'était sur son disque City of Gold, paru en 1971 chez Reprise. L'occasion de se replonger dans la carrière de Tom Rapp.
We told her she was beautiful. We told her she was free. But none of us would meet her in the house of mystery, the house of mystery.
Toutes les informations et la programmation musicale de l'émission sont à retrouver sur la page de Continent Musique sur franceculture.fr, ainsi que la réécoute et le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et vous recevrez tout. Continent Musique vous est proposé par Mathieu Conquet avec la collaboration de Pascaline Bonnet, réalisation Olivier Guérin, à la prise de son ce soir Clément Daté. Les programmes continuent sur France Culture avec Samedi Noir à 21h, mais tout de suite, les papous dans la tête. Bonsoir.